Chapitre 50. Il était extrêmement agréable à Emma de trouver qu'Henriette était aussi portée qu'elle à éviter de se trouver ensemble. Il était assez pénible de s'écrire, il eût été bien pire de se voir. Henriette s'exprimait fortement, sans cependant faire de reproches, ni se plaindre d'être maltraitée. Pourtant, Emma crut apercevoir qu'elle avait du ressentiment et que son style en annonçait, c'est ce qui lui faisait désirer de plus en plus d'en être éloigné. Peut-être ce n'était qu'une imagination, mais aussi il aurait fallu être un ange pour ne pas ressentir un coup si violent. Elle n'eut pas de difficulté à obtenir une invitation de la part d'Isabelle, heureuse d'avoir trouvé un prétexte plausible pour en faire la demande, sans avoir recours à en inventer un. Elle avait mal aux dents. Henriette souhaitait depuis longtemps de pouvoir consulter un dentiste. Madame Knightley fut enchantée de trouver l'occasion de se rendre utile. Toute espèce de maladie était pour elle une forte recommandation, et quoiqu'elle n'eût pas tant d'égards pour un dentiste que pour un monsieur Wingfield, elle n'en eut pas moins d'empressement à se charger de prendre soin d'Henriette. Lorsque tout fut réglé avec sa sœur, Emma proposa ce petit voyage à son amie et la trouva très disposée à se rendre à Londres. Tout fut arrangé très promptement et la voiture de M. Woodhouse la conduisit en sûreté à la place Brunswick. Ce fut seulement alors qu'Emma put jouir en paix des visites de M. Knightley. Elle pouvait l'écouter, lui parler avec un plaisir extrême, sans en être troublée par aucune idée d'injustice, ou même par un sentiment plus pénible encore, celui d'avoir dans son voisinage une jeune infortunée dont le cœur avait été trompé dans ses plus chères espérances. Et par qui ? Par la personne qui n'avait cessé de lui faire de fausses démarches. La différence de savoir Henriette à Londres plutôt que chez M. Godard en faisait peut-être une peu raisonnable dans l'esprit d'Emma, mais elle espérait que la vue d'objets nouveaux l'occuperait agréablement ou au moins la distrairait de ses chagrins et peu à peu les lui ferait oublier. Emma se trouva donc parfaitement tranquille et heureuse après le départ d'Henriette. Une seule chose l'occupait sérieusement, c'était la confession qu'elle devait faire à son père de l'engagement qu'elle avait contracté avec M. Knightley. Elle seule pouvait le faire avec succès. Mais elle prit le parti d'attendre le parfait rétablissement de Mme Weston. Elle ne voulut qu'aucun chagrin vînt à la traverse, diminuer le plaisir dont elle jouissait. Elle voulut passer la quinzaine de l'absence d'Henriette en paix et ne s'occuper que de son bonheur présent. Emma voulut s'acquitter d'un devoir dans ses premiers jours de fête. Ce devoir ne serait pas sans plaisir, c'était d'aller rendre une visite à Mlle Fairfax. Elle était impatiente de la voir. La ressemblance de leur situation augmentait le bien qu'elle lui voulait. C'était déjà une satisfaction. Mais les communications que Jeanne pourrait lui faire ajoutaient encore à l'intérêt de cette visite. Elle se rendit donc chez Mme Bates. Depuis la partie de Box Hill, elle avait été en voiture jusqu'à la porte, mais n'avait pas été admise. C'était pendant la maladie de Jeanne dont elle plaignait l'état sans en soupçonner la cause. La crainte d'être encore refusée lui fit prendre le parti, quoiqu'elle sût que tout le monde était à la maison, de se faire annoncer. Elle entendit Marthe prononcer son nom et dire sur-le-champ « Priez Mademoiselle Woodhouse d'entrer !» Mademoiselle Bates étant dehors, il ne se fit aucun bruit extraordinaire. Mademoiselle Fairfax vint la recevoir au haut de l'escalier avec tout l'empressement possible. Emma ne l'avait jamais vue si belle, si aimable, ni si engageante. Elle était animée, sa contenance et ses manières étaient tout à fait changées. Elle s'avança vers Emma les bras ouverts et lui dit à voix basse, mais avec une sensibilité exquise, « Que vous êtes bonne, Mademoiselle Woodhouse, je ne puis vous exprimer. J'espère que vous me croirez. Excusez-moi, les paroles me manquent. » Emma fut enchantée. Elle eut bien trouvé des paroles, mais le son de la voix de Mme Elton l'obligea à se retenir. Elle crut devoir cacher ses sentiments d'amitié et ne les exprimer qu'en l'embrassant de tout son cœur. Mme Bess et Mme Elton étaient ensemble. Mademoiselle Bates étant absente, on était tranquille. Emma eût désiré que Mme Elton fût partout ailleurs que chez Mme Bates. Mais elle était d'humeur à prendre patience. et comme Mme Elton la reçut d'une manière gracieuse, elle espéra que tout irait bien. Emma crut pénétrer les pensées de Mme Elton et attribua l'enjouement de cette précieuse au plaisir qu'elle ressentait d'être dans la confidence de Mlle Fairfax et à la satisfaction de s'imaginer savoir des secrets qu'on cacherait avec soin aux autres. Elle vit les symptômes de ses sentiments sur sa figure, car en faisant ses compliments à Mme Bess et semblant attentive à écouter les réponses de la bonne vieille dame, elle la vit serrer, avec une espèce de parade mystérieuse, une lettre qu'elle lisait apparemment tout haut à Mlle Fairfax et la déposer dans un beau ridicule pourpre et or qui pendait à son côté. Elle dit ensuite, faisant un signe de tête en même temps, « Nous la finirons dans un autre moment. Vous et moi, nous ne manquerons pas de trouver une occasion opportune. À la vérité, vous savez ce qu'il y a d'essentiel à présent. » Je voulais seulement vous prouver que Mme S. recevait notre apologie et n'était point offensée. Vous voyez qu'elle écrit gracieusement. C'est une charmante femme. Vous en auriez été folle si vous étiez entrée chez elle. Mais soyons discrètes, pas un mot de plus. Conduisons-nous bien. Chut, vous vous souvenez de ces vers? J'oublie de quel poème. S'agit-il d'une dame, on doit tout oublier. « Maintenant, ma chère, dans le cas où nous nous trouvons, au lieu de dame, lisez... »« Chut, un demi-mot suffit au sage. Je suis enjouée aujourd'hui, n'est-il pas vrai? Mais je veux vous mettre à votre aise au sujet de Mme S. Les représentations que je lui ai faites l'ont apaisée comme vous voyez. » Ensuite, Emma, tournant la tête du côté de Mme Betts qui tricotait, elle dit moitié bas à l'oreille de Jeanne, « Je ne nomme personne. Oh non, circonspecte comme un ministre d'État. Je m'en tire à merveille. » Emma n'eut alors aucun doute. Elle se décelait en toute occasion. Après avoir un peu parlé ensemble du temps et de Mme Weston, elle se trouva interpellée ainsi. « Ne trouvez-vous pas, Mlle Woodhouse, que notre petite amie est bien remise? N'êtes-vous pas d'avis que sa guérison fait beaucoup d'honneur à M. Perry ?» Ici, elle fit un signe de côté à Jeanne. En vérité, Perry l'a rétablie en bien peu de temps. Oh, si vous l'aviez vue comme moi, surtout quand la maladie était à son comble. Et lorsque Mme Betts dit quelque chose à Emma, elle dit à l'oreille à Mlle Fairfax, « Nous ne disons pas quelle assistance a eu M. Perry, pas un mot d'un jeune docteur de Windsor. Oh non, Perry a tout fait. » « Je ne vous ai presque pas vue, Mlle Woodhouse, depuis Box Hill. Ce fut une charmante partie. Cependant, à mon avis, il y manquait quelque chose. Il m'a paru qu'il y avait des gens dont les esprits n'étaient pas tournés à la gaieté. C'est du moins ce que j'ai cru apercevoir. Peut-être me suis-je trompée. Malgré cela, je pense qu'on s'y est assez amusé pour en essayer encore une fois. Qu'en dites-vous ? Rassemblons la même compagnie pour une seconde excursion à Box Hill. Il faut que la même compagnie s'y rende, tous sans exception. » Peu après, Mlle Betts entra et divertit beaucoup Emma par ses réponses aux prétendues questions qu'on ne lui faisait pas. « Je vous remercie, Mlle Woodhouse, vous avez trop de bonté. Il est impossible de dire. Oui, je conçois que les espérances de Jeanne... je ne veux pas dire... « Mais elle est parfaitement remise. Comment se porte M. Woodhouse? J'en suis ravie. Le charmant jeune homme. Il est si obligeant. Je veux dire M. Perry. » Par les grands égards, mêlés de remerciements cérémonieux que Mlle Betts avait pour Mme Elton, Emma comprit qu'il s'était passé quelque chose de désagréable entre elle et Mlle Fairfax et qu'on avait heureusement fait la paix. Après quelques chuchotements, Mme Elton dit tout haut, « Oui, ma bonne amie, il y a si longtemps que je suis ici que dans toute autre maison, je croirais être obligée de faire des excuses. Mais la vérité est que j'attends mon seigneur et maître. Il m'a promis de venir me prendre et présenter ses respects à Mlle Fairfax. »« Quoi ? Nous aurons le plaisir de voir M. Elton ? Ce sera une grande faveur, car je sais que les messieurs n'aiment pas à rendre des visites le matin et M. Elton a tant d'affaires. » « Sur ma parole, vous dites vrai, Mlle Betts. Il est occupé depuis le matin jusqu'au soir. On vient de toutes parts sous un prétexte quelconque. Les magistrats, les inspecteurs, les marguilliers viennent toujours le consulter. Ils ne peuvent rien faire sans lui. « Sur ma parole, monsieur E, lui dis-je souvent, j'aime mieux que ce soit vous que moi. Car que deviendraient mes crayons et mon piano? Je les néglige assez, il est vrai. Il y a 15 jours que je n'ai joué un air. Cependant, je vous assure qu'il viendra. » Et se mettant la main devant la bouche, « Une visite de félicitations, vous savez, est indispensable. Il m'a promis de venir aussitôt qu'il pourrait se dégager de Knightley. Mais ils sont renfermés pour se consulter ensemble. Monsieur E est le bras droit de Knightley. » Emma eut bien de la peine à s'empêcher de rire et dit « Si monsieur Elton s'est rendu à pied à Donwell, il aura eu bien chaud. » « Oh non, ils doivent s'assembler à la couronne. Weston et Cole y seront. On ne parle que des principaux. Je m'imagine que monsieur E et Knightley font tout ce qu'ils veulent. » « Ne vous êtes-vous pas trompé de jour ?» dit Emma. « Je suis presque sûre que l'assemblée ne doit avoir lieu que demain. Monsieur Knightley vint hier à Hartfield et dit qu'elle ne se tiendrait que samedi. »« Oh non, très certainement, elle aura lieu aujourd'hui. » Telle fut la réponse polie qui prouvait que madame Elton ne pouvait pas se tromper. « Je crois, continua-t-elle, qu'il n'y a jamais eu de paroisse aussi ennuyeuse que celle-ci. Jamais nous n'avons rien vu de pareil à Maple Grove. »« Votre paroisse est petite ?» dit mademoiselle Fairfax. « En vérité, ma chère, je n'en sais rien. » Il est aisé de le prouver par la petitesse des écoles dont je vous ai entendu parler comme étant sous le patronage de madame Bredge et de votre sœur. Il n'y avait que 25 enfants. « Quel spirituel! Quelle mémoire! Jeanne, si l'on nous amalgamait, on ferait de nous deux une créature parfaite. Mon enjouement et votre esprit solide produiraient une femme parfaite. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas quelque part des gens qui croient que vous ne la soyez. Mais chut, pas un mot de plus. » La précaution était inutile. Jeanne avait envie de parler. Mais ce n'était pas à madame Elton, c'était à mademoiselle Woodhouse, à laquelle, malgré son intention, elle ne pouvait exprimer ses sentiments que par ses regards. Monsieur Elton entra. Son épouse l'accueillit avec sa vivacité ordinaire. « C'est en vérité très poli à vous de m'envoyer ici pour être à charge à mes amis. Mais vous comptiez sur ma docilité. Vous ne vous êtes pas pressé de venir parce que vous saviez que j'attendrais mon seigneur et maître. » « Je suis ici depuis 1 heure, donnant à ces jeunes demoiselles l'exemple de l'obéissance conjugale. Qui peut savoir si elles n'en auront pas bientôt besoin ?» M. Elton avait tellement chaud et il était si las que cette tirade de bel esprit fut perdue pour lui. Il avait d'abord ses devoirs à rendre aux dames et ensuite à s'occuper de lui-même. Il se plaignit de la chaleur et de la longue course qu'il venait de faire inutilement. « Lorsque j'arrivai à Donwell, Knightley ne s'y trouva pas. Extraordinaire, cela ne se conçoit pas. D'après le billet que je lui ai écrit ce matin et sa réponse, il devait être à la maison jusqu'à 1 heure. »« Donwell ! » s'écria sa femme. « Mais vous ne deviez pas aller à Donwell, mon cher monsieur E. L'assemblée devait se tenir à la couronne. »« Non, non, c'est pour demain, et c'est justement pour cela que je voulais voir Knightley. » Par une chaleur aussi brûlante. Et encore, je m'y suis rendu à travers champs, parlant comme s'il eût été très maltraité. Ce qui était bien pis, ne pas le trouver à la maison. Je vous assure que je ne suis pas du tout content. Point d'apologie, pas un mot. La femme de charge m'a déclaré qu'elle ignorait que je fusse attendu. C'est très extraordinaire. Personne n'a pu dire ce qu'il était devenu. Peut-être à Hartfield, peut-être à l'abbaye ou dans les bois. « Mademoiselle Woodhouse, ce n'est plus le même Knightley. Pouvez-vous m'expliquer cela ?» Emma, pour s'amuser, protesta que la chose lui paraissait tout à fait extraordinaire et qu'elle n'avait pas un mot à dire en faveur de M. Knightley. « Je ne puis m'imaginer !» s'écria madame Elton, sentant l'indignité de ce procédé comme une épouse le devait. « Je ne conçois pas qu'il ait pu se conduire ainsi, surtout envers un homme comme vous. » La dernière personne qu'il put oublier. Mon cher monsieur E, il aura laissé un billet, j'en suis sûre. Knightley ne peut pas s'être oublié à ce point-là. Son domestique ne s'en sera pas souvenu. Comptez là-dessus. Les domestiques à Donwell sont très négligents. J'ai aussi observé qu'ils étaient maladroits. Je ne voudrais pas voir au buffet une créature comme son Henri. Quant à Madame Hodge, Rice n'en fait pas grand cas. Elle lui avait promis une recette et ne la lui a jamais envoyée.
« J'ai rencontré Larkins, continua M. Elton, lorsque j'arrivais à Donwell, et il me prévint que je ne trouverais pas son maître à la maison. Mais je ne l'ai pas cru. Il paraissait de mauvaise humeur. Il ignorait ce qu'avait son maître depuis un certain temps, mais il devait lui être arrivé quelque chose d'étrange, car il avait bien de la peine à lui arracher une parole. Je n'avais rien à faire avec Larkins, mais il était de la plus grande conséquence que je visse Knightley aujourd'hui. » Et ce n'est pas peu désagréable d'avoir essuyé tant de chaleur pour rien. Emma sentit que ce qu'elle avait de mieux à faire, c'était de s'en retourner à la maison. Il était très probable qu'il attendait, et qu'en s'en allant à Hartfield, elle empêcherait M. Knightley de se brouiller sérieusement avec M. Elton, et peut-être même avec Larkins. Elle fut charmée, en prenant congé, de trouver Mlle Fairfax prête à l'accompagner, non seulement hors de la chambre, mais même jusqu'au bas de l'escalier. Cela lui donna l'occasion qu'elle désirait trouver, et elle en profita sur le champ pour lui dire « Il est peut-être heureux qu'il m'ait été impossible de vous parler. Si vous n'aviez pas été entouré d'amis, j'aurais sans doute mis sur le tapis un sujet, fait des questions et parlé plus ouvertement que je n'aurais dû. Je sens enfin que j'aurais été impertinente. » « Oh !» s'écria Jeanne en rougissant et avec une hésitation qui, suivant Emma, lui allait mieux que l'élégance du maintien réservé qu'elle avait autrefois. « Il n'y avait pas de danger. S'il y en eût eu, ce ne pouvait être que celui de vous ennuyer. Vous ne pouviez me faire plus de plaisir qu'en témoignant de l'intérêt et... En vérité, Mademoiselle Woodhouse, le sentiment que j'ai de la manière dont je me suis conduite me force d'avouer qu'il est consolant pour moi de savoir que ceux de mes amis dont l'estime mérite d'être conservée n'ont pas été dégoûtés de persévérer. Je n'ai pas le temps de vous confier la moitié de ce que je voudrais vous dire à ce sujet. Je meurs d'envie de faire des apologies, des excuses, de dire enfin quelque chose pour faire oublier mes torts. Je sens que je le dois. Et si vous n'avez pas pitié de moi... Oh, vous poussez le scrupule trop loin, s'écria Emma avec chaleur. Vous ne me devez aucune apologie. Et tous ceux à qui vous croyez en devoir sont si satisfaits, si heureux que... Vous êtes trop bonne. Ma conduite avec vous a été, et je le sens, une suite d'artifices et de froideurs. J'avais un rôle à jouer, et ce rôle était d'en imposer. Je sais que cela devait vous déplaire. N'en dites pas davantage, je vous en prie. Pardonnons-nous nos torts respectifs. Nous devons nous dépêcher de faire ce qui doit nécessairement être fait. Je crois qu'en cela, nos sentiments se rencontreront. Je me flatte que vous avez de bonnes nouvelles de Windsor. Très bonnes. Et les premières, je présume, annonceront que nous devons nous attendre à vous perdre dans peu, justement au moment où je commençais à vous connaître. Quant à cela, on ne peut encore y penser. Je resterai ici jusqu'à ce que le colonel et Madame Campbell me demandent. « Rien ne peut être encore décidé à présent, » dit Emma en souriant. « Mais excusez-moi, il faut néanmoins y songer. » Jeanne, en lui répondant, l'imita. « Vous avez raison, on y a pensé. Et je vous avouerai, bien sûr que ma confiance ne peut être mieux placée, que, quant à l'endroit où nous devons demeurer, M. Churchill a décidé que ce serait avec lui à Enscombe. On doit porter le grand deuil pendant 3 mois au moins. » Mais, ce temps passé, j'imagine qu'il n'y aura plus de difficultés. Mille grâces, c'est justement ce que je désirais apprendre. Oh, si vous saviez combien j'aime que les choses se décident promptement et avec franchise. Adieu, adieu.